Ménage, c'est Onde Femme sur Radio Zone 93,8 tous les mercredis en direct de 17h à 18h30. L'émission est rediffusée le jeudi à 10h et 15h. Remue Ménage sur Radio Zone 93,8. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, dans Remue Ménage, Onde Femme, Radio Zone 93.8, nous allons parler de la nouvelle exposition qui est présentée à l'annexe du musée d'ethnographie à Conches. Une exposition qui a pour titre « Vies inutiles, point d'interrogation, ethnographie d'un couvent ». Et c'est une exposition qui est basée sur une série de photographies prises par Madame Françoise Sautier au couvent des visitants d'Ine de Voiron et de Tenon, dont nous allons parler bien sûr amplement avec Madame Françoise Sautier qui est en direct avec nous. Bonjour Madame Sautier.
Bonjour.
Et nous avons aussi avec nous Anne Ronqui. Anne Ronqui qui vient tout juste de terminer sa licence en sociologie en mars dernier et qui a elle aussi fait une recherche sur l'inutilité, entre guillemets, parce que je crois qu'il faut le mettre entre guillemets, de la vie dans un couvent. Et c'est son expérience de vie de couvent dans le monastère de la Visitation. Au Voiron aussi, c'est ça?
Oui.
Qu'elle va nous faire partager et qu'elle fera partager aussi ce soir dans le cadre d'une conférence qu'elle donnera au musée d'ethnographie annexe de Conches dans le cadre d'une semaine entière consacrée à l'inutilité. Alors, tout de suite, peut-être, on va essayer de se mettre dans une ambiance musicale. Ce n'est pas celle des chants du couvent, mais peut-être ça nous aidera quand même à nous mettre dans l'atmosphère. Alors tout de suite, je vous propose de faire connaissance avec nos deux invités parce que je crois que ça nous aidera un petit peu à situer leur travail et comprendre quel est l'objet de cette exposition. Parce que bien sûr, je pourrais vous parler de l'exposition telle que l'a conçue Bernard Créta, qui est donc le conservateur de l'annexe du musée d'ethnographie et du musée d'ethnographie en général de Genève. Il a bien sûr posé quelques jalons sur pourquoi il proposait une exposition sur un sujet aussi particulier que celui d'un couvent ou deux couvents de femmes. Je vous dis peut-être très très en résumé ses raisons. Pour lui, il y a trois raisons qui ont justifié selon lui cette exposition. C'est qu'un couvent constitue pour lui une véritable société dans la société, avec son espace fermé, son organisation spéciale, ses rites multiples et sa culture propre. On est invité ici à pénétrer dans un univers inconnu qui peut paraître à beaucoup aussi exotique qu'une ethnie lointaine. Ça, je vous lis ses propres mots. Il n'y a pas de quoi déformer ses propos. La deuxième raison, eh bien, c'est que dans ce milieu retranché du monde, comme dans tout groupe volontairement à part, entre guillemets le à part, demeurent des valeurs que la société dite normale a occultées ou censurées ou rendues caduques. Or, un couvent adhère à ces choses devenues étranges que sont la contemplation, la méditation, le silence, l'ascèse, ainsi qu'à toute une série de pratiques que la vie moderne juge inutiles. Pour notre part, réinterrogeant cette inutilité entre guillemets de la vie contemplative, nous avons cru déceler une donnée fondamentale qui traverse les civilisations et qui, même dans son petit reste actuel, dirait ceci: il n'y a de profondément essentiel que ce qui est inutile, donc gratuit. Et puis troisième raison importante, eh bien, c'est que la qualité exceptionnelle des photographies de Madame Françoise Sautier à la visitation de Thonon en 1959 et à celle de Voiron en 1991 constitue un reportage ethnographique de première valeur. Voilà les trois raisons qui ont poussé Bernard Créta à organiser cette exposition. Alors, ça c'est dit très en résumé, et bien sûr que moi j'avais envie de savoir pourquoi Madame Françoise Sautier a, elle, eu envie de rentrer dans le monde de la vie monacale de femmes qui vivent en couvent. En particulier, elle a choisi deux monastères, elle nous dira pourquoi. Et puis, bien sûr, pourquoi Anne Ranchi, qui s'est lancée dans une étude pour son mémoire de licence en sociologie sur ce thème, a aussi choisi, elle, ce débat. Alors, tout d'abord, Madame Françoise Sautier, vous m'avez dit « je suis inclassable » quand j'essayais de savoir ce que je devais dire pour vous présenter. Alors, qu'est-ce que ça veut dire « inclassable » ?
Eh bien, dans une exposition de photos, la première chose que j'ai à vous dire, c'est que je ne suis pas une photographe professionnelle. Je suis une photographe tout à fait amateur. Et c'est en ce sens que je me classe inclassable. Si je fais des photos, c'est en fait une consolation face à tout ce que j'aurais voulu faire et que je n'ai pas pu réaliser. Je suis une femme ordinaire, j'ai une maison, une famille, j'ai eu des enfants, des parents malades, un mari médecin devenu un homme politique. Après cette énumération, vous comprendrez le problème. Mais tout de même, au départ, j'ai passé 6 années aux Beaux-Arts et c'est là que j'ai appris à regarder. Voilà.
Eh bien, effectivement, je crois qu'on comprend bien, mais on est surtout passionné à l'idée de découvrir comment, parmi toutes ces responsabilités que vous avez dû assumer, vous arrivez encore à faire des choses comme un reportage photographique dans un monastère qui doit nécessiter une approche, j'imagine, très longue, très particulière, oui, pour rencontrer un contact avec les sœurs.
Oui, c'est exact, mais c'est un hasard, en fait. Cette exposition de 1959, ce reportage de 1959 se situe donc dans la ville de Thonon, qui à l'époque envisagea d'acquérir le monastère de la Visitation, donc rue des Granges, afin de démolir le quartier et reconstruire ce qui devait devenir la rénovation. C'est ainsi qu'on appelle le nouveau quartier, pour les besoins d'un urbanisme concerté. Bien sûr, on devait reloger les religieuses dans un lieu plus moderne, doté d'un confort ignoré pour elles jusque-là. Donc, on devait les reloger, mais on ne voulait pas, du moins un groupe de personnes ne voulait pas qu'on démolisse pour autant le monastère qui datait, lui, du XVIIe siècle, qui avait été construit sur les plans de Sainte-Jeanne de Chantal et qui demeurait un monument parfaitement intact, sans aucune retouche, sans aucune transformation. Donc, pour faciliter les discussions entre la communauté et les autorités locales, les religieuses firent appel à leur conseiller, celui de toutes les visitantes d'Île-de-France, le révérend père Nathanaël, français, vivant dans une communauté bénédictine à Subiaco, au sud de Rome. Cet homme de grand savoir vint donc à maintes reprises de son monastère pour aider ses bonnes sœurs dans les tractations qui ont lieu à cette époque. Sa première idée, en tant qu'homme d'église, naturellement, fut d'essayer de faire classer la Visitation de Thonon par les monuments historiques, dans le but bien légitime de maintenir les religieuses dans les lieux authentiques du début de leur histoire. Mais pour ce faire, il fallait rassembler un dossier, en particulier photographique. On ne pouvait pas faire venir les gens des monuments historiques depuis Paris, il fallait leur apporter un document. Je fus ainsi proposée à cette mission, car à l'avantage d'être capable de me servir d'un appareil, en amateur comme je vous l'ai déjà dit, s'ajoutait celui d'être une femme, donc susceptible d'être plus facilement admise à l'intérieur de la clôture. De plus, en janvier de cette même année 59, à la suite d'une exposition consacrée à l'art religieux, l'année précédente, j'avais été élue membre correspondant de la Commission supérieure des monuments historiques du département de la Haute-Savoie, section Antiquités et œuvres d'art. Évidemment, c'était une carte de visite, disons. À partir de là, tout se déroula de la manière la plus simple du monde. Cette aventure qui, à mes yeux, ne représentait qu'un service rendu, devint une merveilleuse histoire dont voici la conclusion, c'est-à-dire cette exposition à l'annexe du musée ethnographique de Genève à Conches. Le père Nathanaël demanda au Vatican l'autorisation de me permettre d'entrer dans la clôture à ma guise. Et c'est là qu'est le miracle, en fait, parce qu'on ne rentrait pas comme cela si facilement dans un monastère de sœurs cloîtrées. Elle me fut accordée sans difficulté, à la condition que mes va-et-vient n'excèdent pas la durée d'un mois. J'en étais touchée heureuse, mais en fait, je n'étais pas du tout consciente de la chance qui était offerte à tous sur le plan de l'histoire locale. Lorsque je suis rentrée pour la première fois à l'intérieur de la clôture, malgré la simplicité des formalités, j'étais très intimidée. Je m'étais vêtue d'une façon sévère et à mon grand étonnement, je fus reçue par des demi-sourires. Pourquoi ? Avec ma petite jupe grise et mon pull noir modeste, je décevais les sœurs. Elles se réjouissaient tant de me voir venir en pantalon, dirait-elle. J'ajoute que ce monastère que l'on décrivait comme sombre, humide, habité par des ombres, ne ressemblait en rien à cette image. Je dirais même qu'il était plutôt lumineux et ensoleillé. Mais de l'extérieur, on n'en savait rien. Personne ne le savait. Les Tononais ne connaissaient rien de l'intérieur de ce monastère. D'autre part, les sœurs, évidemment, ne connaissaient non plus pas les Tononais de l'extérieur. Elles se sont donc enfuies à mon approche le premier jour, mais très vite par la suite, elles se sont montrées coopérantes et agréables. L'une d'elles me demanda même de la photographier. Elle prit la pose sur le bord d'une fenêtre, mais naturellement, on n'a pas gardé l'image. D'autres parmi elles, malgré l'ordre qui leur avait été donné par leurs supérieurs, au moment où je les immortalisais dans leur réfectoire, levèrent par curiosité leur nez par-dessus leur assiette pour guigner dans ma direction. Mais là encore, on ne garda pas les photos. Parmi elles, j'avais la chance d'avoir une amie personnelle, la belle-sœur de la fille de Maurice Denis le peintre. Très proche de la révérende mère supérieure, elle l'assura sans doute de mes bonnes intentions. Aussi, et ce fut une chance supplémentaire pour nous tous, me rencontrant un jour en train de photographier les toits, les murs, le cloître, le clocher, c'est-à-dire tout ce qu'on m'avait demandé de faire, la révérende mère Marie-Régis Thésier, femme affable, en avant sur son temps, me dit « Madame Sautier, tout le monde vous aime bien ici. Si cela vous fait plaisir de rendre votre reportage plus vivant, je vous autorise à photographier mes filles dans leur vie de chaque jour, au jardin, à leur travail, à la prière. » Et c'est ainsi que ce reportage vit le jour. Par la suite, j'envoyais ce document à toutes les personnes susceptibles d'aider au classement de ces bâtiments, y compris André Malraux, alors ministre, qui dépêcha son chef de cabinet pour visiter les lieux. Tout ne fut pas classé, la ville acquit le bâtiment, les religieuses furent relogées à Marcla, mais surtout le monastère ne fut pas rasé. Les murs sont toujours là, moins sévères, percés de multiples fenêtres, ouverts sur tenons. Une autre vie les habite. Sans doute le travail demandé initialement s'est avéré partiellement inutile. Il reste en revanche les images en noir et blanc, les traces et les reflets dans leur rigueur, mais aussi dans leur chaleur, d'un peu d'histoire de notre ville, grâce à la complicité d'un appareil photo très complaisant. Mais je dois dire que n'étant pas du tout consciente de la valeur de ce document. Ce document est resté 27 ans au fond d'un tiroir, tellement au fond de ce tiroir que je l'avais complètement oublié, jusqu'à ce que surgisse dans ma maison un médecin ami qui avait appris tout à fait par hasard que j'avais fait ce reportage photographique. Et qui, pendant une année, m'a dit « Mais enfin, ce n'est pas possible, ça intéresse tout le monde. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de laisser dormir des appareils photos dans un tiroir ? Il faut les sortir, il faut les agrandir, il faut les montrer, il faut que les gens de ton nom sachent, il faut absolument faire quelque chose. » Et de guerre lasse, au bout d'une année, eh bien, j'ai sorti mes photos. On les a agrandies, on les a encadrées. Et on les a présentés en 1959, donc, à la visitation de Thonon dans la chapelle désaffectée du monastère. Et tous les Thononnais, complètement ébahis, éblouis, sont venus, mais en troupe, venir voir ce qu'ils n'avaient pas vu de toute leur vie, ce qui se passait derrière ces hauts murs qui barraient la vie des sœurs par rapport à l'extérieur. Voilà.
Histoire magnifique. Et comment ce reportage de 1959 est-il arrivé à faire partie d'une exposition en 1992 au musée d'ethnographie de Genève dans son annexe de Conches ?
Bon, alors,
Madame Sautier.
À ce moment-là, si vous voulez, les choses se sont déroulées d'une façon très simple. En 1959, les Thononnais l'ont vu. En 60, la municipalité, par l'intermédiaire de M. Jean-Pierre Rousseau, m'a demandé de recommencer cette exposition. C'était sans problème. Les photos étaient toutes encadrées. Il n'y avait plus qu'à les mettre sur les murs une deuxième fois. Cette deuxième exposition, ben, d'autres personnes sont rentrées pour la voir. Des Annéciens en particulier. Alors à ce moment-là, les Annéciens m'ont dit « Mais pourquoi pas Annecy ?» Alors j'ai transporté, c'est eux qui sont venus les chercher d'ailleurs, mais cette exposition a été transportée à Annecy en 91, je crois. Oui, en 91 exactement. Et c'est la même chose qui s'est produite, c'est-à-dire qu'à Annecy, comme à Thonon, des gens sont rentrés qui n'étaient pas intéressés particulièrement par les photos, mais par l'histoire du pays, si vous voulez. Et M. Necker, le directeur du musée d'ethnographie, est rentré, les a vus. Il en a parlé à Bernard Crétaz, qui est rentré à son tour et les a vus, et qui a cherché à me voir et qui m'a dit « Mais cette exposition, je la veux. Je la veux moi aussi pour mon musée d'ethnographie à Genève. » Et voilà, c'est une histoire absolument toute simple, toute bête, depuis le commencement. C'est une succession de hasards et voilà.
Madame Françoise Sautier, c'est une succession de hasards, mais une volonté certainement de vous, au point de départ, comme vous l'avez dit, bon, il y a une succession, il y a aussi un événement, entre guillemets, dans le sens qu'il y a la menace sur le monastère, mais est-ce que vous, quelque part, vous étiez destinée à faire un reportage comme celui-là, dans le sens où est-ce que c'était de toute façon une vie qui vous intriguait, qui vous intéressait depuis toujours ou depuis plus récemment, mais qui vous a donné aussi l'envie de dire oui quand on vous a demandé de faire ce reportage ?
Non, pas du tout. Oui, j'avais certainement, j'aimais les sœurs parce que je suis catholique pratiquante et tout ce qui touche à ma religion m'intéresse. En plus de ça, j'avais, comme je vous l'ai dit, une amie dans le monastère et derrière la grille, au parloir, j'allais la voir. Mais au fond, ma curiosité n'allait pas plus loin. Je n'ai pas eu vraiment une envie personnelle d'aller photographier ses sœurs, pas du tout. C'est parce qu'on me l'a demandé, je vous ai dit plus haut, que c'était un service rendu. On m'a demandé de le faire, il fallait le faire pour conserver le bâtiment. Je l'ai fait, mais, et je vous répète, j'ai oublié ces photos dans un fond de tiroir et je ne leur ai pas accordé l'intérêt que maintenant elles semblent avoir.
Anne Ronqui, vous êtes, il fallait bien que je fasse l'erreur une fois. Anne Ronqui, vous êtes beaucoup plus jeune. Je crois qu'on peut dire quand même, Madame Sautier, si vous êtes d'accord, qu'on se rend compte qu'il y a une expérience très différente. Je crois que ça a de l'importance, hein, si vous êtes d'accord. Madame Ronqui est jeune, je ne sais pas quel âge vous avez.
25 ans.
Alors que Madame Sautier a 72 ans, une grande expérience de vie derrière elle. Et toutes les deux, vous vous êtes intéressées à la vie de ces femmes à un moment donné. Alors vous, Madame Ronqui, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous approcher de ces femmes qui vivent dans ce monde si particulier ?
Ben, disons que j'étais en train de faire mon mémoire. Je devais faire ce travail de fin d'année. Et je travaillais sur le sens de l'existence. Et bon, je piétinais sur le sujet. Je n'arrivais pas à trouver d'orientation suffisamment sérieuse pour pouvoir travailler sur un terrain praticable. Et c'était à peu près la même période où Bernard Créta a entendu parler de l'exposition de Madame Sautier et qu'il a été la voir. Et un jour, il m'a contacté, il m'a dit « Écoute, voilà Anne, maintenant c'est soit tu me trouves une grille d'analyse et un terrain praticable, soit tu changes de sujet, un sujet pas aussi éloigné de mes préoccupations quand même, puisque le sens de l'existence, je lui ai donné une réponse en choisissant en fait un chemin de vie bien défini tel que la vie à la Visitation. » Et puis voilà, alors j'ai accepté parce que j'avais pas, je trouvais pas moi mon terrain sur le sens de l'existence. Et j'ai été voir Madame Sautier, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Elle m'a prêté son magnifique album avec lequel j'ai beaucoup travaillé au départ sur les photos en fait. Et puis après, ben, j'ai pu aller à la Visitation à Voiron grâce toujours à Madame Sautier, qui connaissait très bien la mère supérieure et puis qui m'a permis de pouvoir rentrer dans le monastère. Et puis, par curiosité, j'avais envie de savoir ce qu'était devenue la communauté de Tenon, en fait, qui s'est déplacée à Marclaz. Et j'ai fait un petit séjour aussi à Marclaz. Et voilà comment ça s'est passé.
Donc, au point de départ, non plus pas une attirance particulière pour
non,
la vie monacale.
Non. Ça fait fruit du hasard.
Je crois que ça, c'est intéressant parce que, en fait, bon, on pourrait croire que les gens qui sont attirés par ce mode de vie le sont parce que c'est lié à leur foi ou que peut-être parce que c'est des questions qu'on se pose un tout petit peu plus aujourd'hui de ces gens qui ont vécu depuis la nuit des temps, parce que la vie monacale est très très ancienne et qu'on se demande ce que ces gens font toujours aujourd'hui. Il y a diverses approches effectivement qui peuvent permettre de s'intéresser à cela. C'est assez intéressant de voir que vraiment vous êtes un peu tombé sur le sujet comme ça, beaucoup par hasard. Alors, bien sûr, il y a quelque chose qui m'a intéressée dans l'approche que propose Bernard Créta. Il le fait de façon extrêmement provocatrice, il faut bien le dire. Hein, parce que d'abord, le titre qui est de dire « vise inutile », point d'interrogation. Donc là, d'emblée, il pose un point de départ. Et puis tout au long de l'exposition, qui se trouve sur deux étages de l'adorable villa de l'annexe du musée de Conches, toujours aussi agréable à visiter, eh bien, il y a une série de panneaux qui reprennent un peu tous les jalons de la vie de ces femmes. Et à chaque proposition, eh bien, lui, d'un trait blanc sur un placard noir, pose une question provocatrice par rapport à la vie de ces femmes. Alors, j'aimerais savoir, Madame Sautier, est-ce que lorsque Bernard Créta vous a finalement dit « ben voilà, je vais utiliser votre exposition dans mon musée à moi », est-ce qu'il vous a dit comment il allait le faire ? Est-ce que vous avez participé à l'organisation de l'exposition ? Est-ce que, par exemple, vous saviez qu'il y allait avoir cette série de questions provocatrices avec vos photos ?
Mais non, je ne savais rien du tout. D'autant plus que le deuxième reportage n'était même pas commandé par M. Bernard Crétaz. C'est plusieurs semaines, je crois même plusieurs mois après qu'il m'ait rencontré et qu'il m'ait demandé mon premier reportage, que tout d'un coup, il m'a dit « mais il m'en faut un second ». Et alors là, moi, j'étais très perplexe. Parce qu'à Tenon, il n'y en a qu'un seul. Et au fond, je ne connais pas. Je ne connaissais pas davantage les autres monastères de la Visitation. C'est là où il faut que je fasse quand même une parenthèse. Parce que je me suis trouvée assez désemparée, faire un deuxième reportage, où... Alors, je suis allée trouver la supérieure de la Visitation d'Annecy en lui disant ma perplexité. Je lui ai dit, voilà, je dois faire un deuxième reportage post-concile, plus moderne, où il y ait des novices, etc., etc. Et c'est elle qui m'a conseillé d'aller à Voiron. Elle m'avait conseillé aussi un autre monastère, mais c'était, vu mon grand âge, beaucoup trop éloigné pour moi. Faire des navettes jusque dans le midi de la France, ça ne m'était pas possible. Alors, j'ai opté pour Voiron. Et quelle a été ma surprise à Voiron ? J'ai eu toutes les chances dans mes deux reportages, je dois dire. quelle a été ma surprise d'y trouver comme mère supérieure l'ancienne mère supérieure de Marc-là, qui, un peu malade, elle avait des yeux malades, avait quitté Marc-là, ou peut-être le fait que Marc-là était devenu un ancien aria et que la vie y était plus très réglée comme dans un monastère habituel. Elle était partie à Voiron. Et c'est là que je l'ai rencontrée après avoir choisi Voiron. Là encore, il y a un hasard. Comme si j'étais conduite par la main tout au long de cette série d'expositions et de reportages. Donc c'est de cette façon que j'ai abouti à Voiron. Mais là, il faut que je vous dise quand même quelque chose avant. Parce qu'il y a une erreur que l'on fait, en tout cas à Thonon, et certainement ici. Dans les environs de Thonon, il y a un autre monastère qui s'appelle Les Voirons, sur la montagne des Voirons. Et ce n'est pas de celui-là dont il s'agit. Il s'agit de Voirons, dans l'Isère, près de Grenoble. C'est celui-là que j'ai... Pour celui-là que j'ai fait un deuxième reportage, et c'est les photos de ce monastère-là qui sont exposées avec celles de Thonon à l'annexe du musée ethnographique de Genève. Voilà, c'est une précision qu'il fallait que je vous donne. En plus, je voudrais, excusez-moi de vous couper la parole, mais je voudrais aussi vous dire qu'il y a erreur souvent sur l'interprétation du mot « visitation ». On dit très souvent, à moins que Anne l'ait expliqué dans son texte.
Non.
Alors, on pense toujours que la visitation, c'est à cause des sœurs visiteuses, de malades, de ci, de ça. Eh bien, ça n'est pas du tout ça. Ce mot « visitation » a son origine dans les évangiles. Il y a eu, à un moment donné, une visite, celle de la Vierge Marie, à sa cousine Élisabeth, qui était âgée, qui n'avait pas pu avoir d'enfant. Et à la suite de cette visite, Élisabeth fut enceinte d'un bébé à sa naissance, nommé Jean. Il devint plus tard Jean-Baptiste et baptisa Jésus, ainsi que beaucoup d'autres mondes, un peuple entier d'ailleurs. Le mot « visitation » vient donc de cette visite de Marie à sa cousine, et non pas, je vous le répète, de l'idée de sœur visiteuse.
Et donc, c'est un ordre religieux de femmes que l'on retrouve disséminé un peu partout en Europe ?
Ah oui,
Le monde entier. Hein,
dans le monde
sur
entier.
Sur trois continents, il se trouve, en fait.
Bah ouais, bah attendez, moi je vais vous donner des
Et précisions. Donc, c'est intéressant de savoir que c'est un ordre qui a été créé tout près de chez nous, puisque vous le disiez, c'est à Annecy qu'a été créé le premier couvent de la visitation.
Pas en principe, effectivement, par Saint-François de Sales et Sainte-Jeanne de Chantal, qui ont créé cet ordre ensemble. Alors, puisque vous me demandiez combien il y en avait dans le monde, ça je le sais par une sœur de la visitation de Voiron, qui m'a donné des tuyaux que j'ignorais d'ailleurs. Il y a en ce moment 168 monastères de la visitation, répartis en Europe, c'est-à-dire en Angleterre, Irlande, en Allemagne, Autriche, en Espagne, en France, en Belgique, Suisse, au Portugal, en Pologne, en Afrique, au Congo, au Burundi, au Rwanda, en Amérique du Nord, aux États-Unis, au Canada, en Amérique latine, au Mexique, au Guatemala, Panama, Porto Rico, enfin la liste est immense, je vous dis qu'il y en a en tout 168. Tous ces monastères sont liés par les mêmes constitutions, mais sont autonomes. Voilà.